Ah bah la patron m'a convaincu.
Ben, je vous en prie, asseyez-vous.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Quelle est votre principale motivation ?
Chasser en recrutement. Action de contacter un candidat pour lui proposer une opportunité professionnelle. Pourtant, on voit trop souvent des retours comme
« Oh, encore un recruteur ! Il a vraiment rien compris à ce que je fais, lui !»
Salut, je suis Stan, recruteur chez Manify, et vous écoutez « Écrire pour recruter », le podcast sur l'approche candidat de l'agence de recrutement et Manify. Une vingtaine de minutes, un expert et un conseil concret pour améliorer tes messages d'approche. J'accueille aujourd'hui Clara Lefebvre, ghostwriter et copywriter RH à son compte, une de ses multiples casquettes est de former les recruteurs dans leurs messages d'approche. Et justement, pour le coup, on aborde un aspect tellement sous-estimé, mais pourtant qui est à la base de tout message, les structures. Lesquelles utiliser, comment les mettre en place, mais surtout, quels sont les bénéfices à en tirer, on en jase avec Clara. Salut Clara, comment tu vas aujourd'hui ?
Salut, super, et toi ?
Bah franchement, super bien, merci beaucoup d'être avec moi. Et sans attendre, je vais directement te poser la question. Ça serait quoi, toi, ton meilleur conseil pour contacter un candidat ?
Là, comme ça, je dirais vraiment s'intéresser à lui, ne pas chercher à lui vendre quelque chose. Essayer, dans la mesure du possible, de faire preuve de finesse. Un copywriter, avant d'écrire, il a beaucoup de recherches à faire. Il a un vrai travail d'enquêteur, de psychologue, d'une certaine manière. L'objectif, c'est vraiment de se mettre dans la peau...
dans la tête un peu de ton candidat, ouais.
Ouais, dans la peau, dans la tête. Et je pense que l'objectif avec un candidat, c'est vraiment de faire pareil. Je pense que ça coûte rien de passer un peu de temps sur... son profil LinkedIn ou même ailleurs, il y a beaucoup d'informations qu'on peut capter, je pense, à travers un profil, quel qu'il soit, ou une page, s'il a un site vitrine. Donc, essayer dans la mesure du possible de montrer qu'on a fait des recherches sur cette personne, qu'on s'est intéressé à elle. Voilà, si... le candidat, je sais pas, mais vient d'intégrer une nouvelle entreprise, montrer que on le sait et lui poser la question, est-ce que cette entreprise vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui vous vous y sentez bien, même si ça fait pas très longtemps, parce qu'on a tous reçu, on a tous été candidats un jour, et je crois qu'on a tous reçu au moins une fois un message, un mail d'un recruteur. Qui nous fait une proposition alors que on vient d'intégrer un nouveau poste, et moi je trouve à titre personnel que ça fait jamais très sérieux, ça fait vraiment le message robot automatisé, où on sent que la personne a pas fait le minimum de recherche.
Non, totalement, ça c'est quelque chose, et on le répétera jamais assez, se mettre à la place, comme vraiment s'intéresser, ça. Un travail d'empathie, hein, c'est compliqué, mais se poser les bonnes questions, s'intéresser à la personne. Tu me parlais aussi, ça c'était intéressant, tu sais, les sites parfois, tu sais, je recrute beaucoup de développeurs, aller chercher les sites vitrines des développeurs et tout, leur portfolio, ce qu'ils ont pu faire, et tout simplement essayer de définir un petit peu, tu sais, leur motivation pour savoir où justement appuyer quand tu vas le contacter, c'est très pertinent. Mais justement, est-ce que tu aurais un petit skills de copywriter pro à nous partager, tu sais, sur peut-être comment améliorer nos approches?
Alors, sur l'offre d'emploi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très simple, mais qui fait vraiment la différence, c'est de s'adresser directement au candidat. Pourquoi ? Parce que dans un process de recrutement, il y a une distance de fait, parce qu'on se connaît pas, parce que c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde du travail. Donc il y a déjà une certaine, surtout en plus en France où c'est très formel, où le vous tout de suite est de rigueur, et donc il y a une distance déjà de base, et souvent dans les offres d'emploi, L'offre d'emploi, en fait, est écrite à la troisième personne. Le candidat devra, et au futur en plus, le candidat fera, le candidat devra. Et je trouve que ça rajoute en fait une distance. Ça permet pas vraiment au candidat de se projeter. Or, la projection, la visualisation en copywriting, c'est des trucs qui sont vraiment hyper importants. Et je trouve que parler au présent et s'adresser directement au candidat, ça permet, ça lui permet vraiment de se projeter au-delà de d'autres tips dont on pourra éventuellement parler. Mais ça donne un sentiment de d'immédiateté et de concret qui est beaucoup plus vif que le candidat fera ci, le candidat fera ça. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de pas du tout chaleureux. On sait qu'on se connaît pas, on sait que c'est le monde du travail, il y a pas besoin d'en rajouter quoi.
Non, c'est clairement froid et impersonnel. Souvent, j'en parlais avec une collègue. Le monde, quand il rédige une description de poste, une offre d'emploi, ils ont l'impression qu'ils s'adressent à une masse de personnes. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'elle est partagée sur les réseaux, c'est la personne toute seule face à son écran qui lit, tu sais. Donc, autant s'adresser directement, tu sais, à cette personne et justement de briser peut-être quelques barrières comme t'en parles. On en parlait aussi un petit peu plus tôt. Est-ce que j'ai vu que t'as quelques structures intéressantes justement pour une offre d'emploi? Est-ce que tu voudrais en parler?
Bien sûr. Celle à laquelle je pense là, c'est passera.
Okay.
Problème, agitation, solution, résultat, action. Alors à adapter bien sûr avec une offre d'emploi. Alors pour moi, il y a les deux premiers moyens, enfin les deux meilleurs moyens, on va dire, de catcher l'attention du candidat. C'est soit le storytelling, soit lui faire part d'un problème, de son problème. Alors là, pour Passera, c'est plutôt la partie problème, mais pour ouvrir la parenthèse du storytelling et la refermer aussi vite, sur la partie storytelling, je pense que l'histoire de l'entreprise est vraiment quelque chose de très pertinent, parce que n'importe quelle entreprise a son histoire. Et je pense que c'est hyper intéressant de la raconter. Mais quelle qu'elle soit, c'est pas juste réservé aux startups. Ça peut aussi être réservé à un grand groupe qui, il y a, je sais pas, 30 ans, était une petite entreprise familiale. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Et je trouve que c'est vraiment un élément de persuasion qui est intéressant. Et donc beaucoup de recruteurs et d'entreprises se passent, et je trouve que c'est dommage. Et pour alors la partie problème, je pense que capter l'attention du candidat en identifiant son problème actuel, ça peut être une solution. Pour te donner un exemple, souvent, dans les cabinets de conseil, il y a un vrai sujet de rétention des talents.
Effectivement.
Ouais, il y a beaucoup de turnover parce qu'il y a énormément de concurrence. Alors après, la concurrence aujourd'hui, elle est partout, hein, donc c'est pas forcément un élément différenciant. Mais un cabinet de conseil qui se différencie notamment par le fait de fidéliser ses talents, c'est clairement un élément différenciant, et je pense qu'il y a beaucoup de consultants qui en ont un peu marre d'aller de cabinet de conseil en cabinet de conseil où on leur promet très peu d'intercontrats, où on leur dit qu'ils vont former un tel et un tel une fois qu'ils auront fait un, deux ou trois projets, et en fait il se passe rien. Pour ces entreprises qui... alors, à condition que ce soit vrai, bien sûr, hein, parce que l'objectif, c'est pas de raconter n'importe quoi et de mentir. Hein, c'est surtout pas le but. Mais pour ces entreprises, justement, qui changent vraiment la donne, et il y en a, et il faut en parler, il faut vraiment miser sur, sur leurs atouts. Et en général, leurs atouts, notamment, c'est de répondre à un problème. Et si c'est notamment... le fait de réussir à à fidéliser ton candidat une fois que tu l'as capté, bah il faut clairement le mettre en avant.
Ok. En fait, il y a plein de choses intéressantes que tu as sorties. Quelque chose toujours super important d'appuyer, parce qu'on parle souvent de techniques de copywriting. Si vous promettez des choses que vous êtes incapable de tenir, vous allez juste générer de la frustration. La pire des choses, justement. Et ça va vous tuer votre réputation de votre marque employeur. Ton exemple était super pertinent. Je serais curieux de continuer avec celui-ci. Donc dans la structure Pastra dont tu me parles, tu sais, pour le cas, imaginons, d'un consultant, t'identifies que le problème, finalement, ça serait de donner une vision à long terme, enfin que justement la plupart des boîtes ne donnent pas une vision à long terme pour les consultants, tu sais, pour qu'ils aient un peu de stabilité. Donc ça serait le problème. Ça serait le problème principal que tu mettrais au début, par exemple, de ton offre d'emploi ou de ton message, en tout cas. Mm-hmm. Donc ensuite, à partir de là, on passerait au A, qui est agitation.
Ouais, tout à fait. Et alors là, pour le coup, je pense qu'on peut embrayer sur, pour rester dans quelque chose d'assez fluide, finalement, qui est l'entreprise et qu'est-ce qu'elle a à offrir. Donc là, c'est vraiment les valeurs, mais les valeurs, enfin, à condition qu'elles soient vécues au quotidien, parce que les valeurs, bon, on les retrouve un peu à tire-larigot dans toutes les fiches de poste, dans toutes les offres d'emploi. Mais si on a quelque chose à offrir, ça, en tant qu'entreprise, ça vient bien de quelque chose. Du coup, ça vient de quoi, pourquoi, parce qu'on est comme ça, etc., etc. Donc, je pense que parler des valeurs, donner aussi des éléments concrets sur le service auquel le poste est rattaché, donner le nombre de personnes dans l'équipe. Parler des avantages aussi, parce que les avantages d'un poste et d'une entreprise, c'est clairement des éléments différenciants. Ça fait aussi partie des bénéfices, en l'occurrence, hein, je veux dire dans une offre d'emploi. Et il faut savoir que si on parle là plutôt en termes marketing, copywriting, en marketing, en tout cas, la décision d'achat, elle se fait sur les bénéfices. Donc, voilà, ce que l'entreprise, qui elle est et ce que l'entreprise a à offrir, je pense que ça peut être une deuxième étape intéressante après l'identification du problème du candidat.
Ok, donc c'est ça, on identifie un problème. Donc là, comme tu disais, cette vision à long terme, dans notre exemple du consultant, On l'agite un petit peu. Le S, c'est, j'ai oublié, c'est quoi exactement déjà le nom?
Alors, le S, c'est solution, mais si on transpose ça à l'offre d'emploi, là, je pense qu'on peut donner des éléments sur la fiche de poste, mais à étoffer un petit peu. Pourquoi? Parce que finalement, une fiche de poste, bon, à quelques exemples près, mais je pense que la fiche de poste, elle est rarement, entre guillemets, c'est rarement l'élément différenciant, sauf s'il y a des spécificités, auquel cas, il faut évidemment les mettre clairement en évidence. Mmh. Mais la fiche de poste, elle est somme toute assez commune, plus ou moins, hein, évidemment. Mais du coup, c'est pas forcément un élément, c'est un élément très important. Mais c'est pas forcément un élément très différenciant, mais ça reste un élément important de l'offre d'emploi, puisque la personne lit clairement ce qu'elle va devoir faire. Mais du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de l'étoffer et de la rendre beaucoup plus concrète. Ça, c'est hyper important, le fait de rendre quelque chose concret en copywriting pour permettre à ton lecteur de se projeter. Ça, c'est voilà. C'est hyper important. Donc, donner la fiche de poste en mettant du contexte, c'est-à-dire qui est plutôt le N+1, le N+2, donner peut-être quelques éléments de définition par rapport à l'organigramme. L'organigramme, moi, j'y ai toujours été, enfin, quand j'étais en entreprise, en tout cas, j'ai été assez attachée, parce que je trouve que surtout dans les grandes entreprises, ça permet vraiment d'avoir une vision assez assez macro, en fait, voilà, de qui est qui, où ça, à quel endroit, et voilà, je trouve que ça peut être intéressant. Bon, l'émission du quotidien, ça fait partie de la fiche de poste, mais voilà, ou donner une journée type aussi, ça peut être, alors en lien avec la fiche de poste, ça peut être expliciter une mission d'une phrase, en fait, sans expliquer une journée type, parce que la journée type, c'est peut-être plutôt quelque chose qu'on peut mettre après dans résultat. Mais voilà, étoffer la fiche de poste, permettre au candidat de se projeter, de bien visualiser, donner des éléments de contexte sur l'équipe, rattachée à quel service. Le contexte, ça peut être aussi, est-ce que c'est une création de poste, est-ce que, tu vois, voilà, plein d'éléments qui permettent de donner de l'information supplémentaire pour se projeter, pour visualiser au mieux l'environnement de travail.
Ok, totalement. On va donner un premier, comment dire, une première peinture, une première image de ce que pourrait être, de ce que pourrait être le poste. Je relève un détail que je trouve assez fou, c'est mettre les N+1. J'ai vu j'ai eu plus de résultats dans mes messages d'approche ou peut-être dans des offres d'emploi quand je travaille avec mes clients, quand je nomme concrètement qui va être le lead de l'équipe, qui est le CTO, tu sais, qui est en charge de ce projet en particulier, même de mettre leur lien LinkedIn s'ils sont d'accord. Comme ça va permettre vraiment au candidat, bah ok, je clique, ok, ça sera avec cette personne que je travaille, il voit les expériences de cette personne qui, donc, avec qui il va collaborer, et ça me permet de se projeter, de comprendre un petit peu mieux, tu sais, avec l'expérience justement du gestionnaire, à quel type de personne il a affaire, en tout cas à quel type de background, et ça peut vraiment inspirer et donner à la personne d'appliquer. Donc pour reprendre, donc c'est ça, on avait ce problème qu'on a agité, ensuite t'offres la solution en expliquant justement un petit peu le poste, le contexte de celui-ci, cette image dont on parle. Ça serait quoi l'étape d'après?
Alors l'étape d'après, et je reviendrai sur la notion de N+1 et de N+2, parce que enfin je trouve que c'est hyper hyper intéressant ce que ouais. Tu dis, mais pour continuer, hein, sur la structure, donc le R, ce serait le résultat. Bon, là finalement la promesse en travaillant pour l'entreprise, ou expliquer une journée type.
Okay.
La journée type, je pense que c'est un bon moyen de mettre en lumière la fiche de poste, mettre en pratique aussi ce qu'on a pu dire sur le contexte du poste et du service. Je trouve que personnellement, je pense que la journée type, c'est vraiment quelque chose qui devrait presque apparaître dans toutes les offres d'emploi, parce que ça permet aux candidats de se projeter, ça permet de rendre concret des éléments de langage qui ne sont pas forcément intelligibles. Il y a beaucoup d'acronymes, de trucs qui paraissent évidents mais qui ne le sont pas forcément. Ça peut être sur des logiciels ou des choses comme ça. Et puis ça permet aussi de rendre un peu vivant ce qu'on lit. Et ça, c'est clairement quelque chose qui manque cruellement, je trouve, aux offres d'emploi d'aujourd'hui qui sont les mêmes depuis, je sais pas, des dizaines d'années, quoi. Moi, je trouve que, je sais pas si on peut le dire, et je sais pas si tu le mettras dans le podcast, mais je trouve que on recrute comme dans les années 80, quoi.
Totalement d'accord. On met pas de cut dans ce podcast, t'inquiète pas. Mais
voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à changer, que le recrutement a changé, que les recruteurs maintenant doivent se battre pour attirer des candidats. Que c'est plus maintenant, la concurrence est partout, les candidats ont le choix. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire venir les candidats à soi? Et je pense que le marketing aujourd'hui a toute sa place dans l'environnement RH et recrutement. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le N+1 et le N+2, alors ça, donc preuve à l'appui, hein, toi-même, t'as plus tu disais que t'avais plus de
réponses ou de retours.
Ouais, voilà. Et puis, au-delà de ça, je trouve que il y a une notion un peu pas de politesse et de respect, mais je trouve que tu en faisant ça, tu donnes des billes, tu donnes des outils, des clés à ton candidat pour pas seulement pour qu'il se projette, mais aussi pour que pour lui faciliter un peu les choses. Je m'explique. Aujourd'hui, un process de recrutement, il se résume pas à un entretien. C'est d'ailleurs un sujet aujourd'hui. C'est le problème de des délais hein, et de la longueur d'un process de recrutement. Ça, c'est un autre débat, mais il y a toujours, 2, 3, 4 parfois entretiens. Le N+1 ou le N+2 est en général la dernière personne qu'on va voir. Un candidat sérieux, je pense, enfin en tout cas moi c'est ce que je faisais quand je pouvais, s'il le peut, va toujours aller voir quelques éléments sur la personne qu'il va rencontrer, même le recruteur d'ailleurs, hein, pas seulement la dernière personne, pas seulement le directeur de la BU. Je trouve que ça permet aussi aux candidats d'avoir des informations supplémentaires sur la personne qu'il va rencontrer. Alors c'est pas game changer forcément, mais je trouve que ça permet de faire en sorte que le candidat, quand il est dans un process de recrutement et qu'il rencontre quelqu'un, ça le met dans de bonnes conditions et on fait tout pour que le candidat soit à l'aise lors de l'échange. Voilà, qui va rencontrer, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait, depuis quand elle est là. Voilà, je trouve que c'est aussi quelque chose d'important à ce niveau-là.
Ah, totalement, totalement. Et même, tu sais, on pourra en discuter de ça, des processus, mais d'avoir une première rencontre qui est plus sur la personnalité pour justement... Parce que là, tu parlais aussi, pour rebondir là-dessus, tiens, tu parlais du contexte. C'est vrai que le marché a beaucoup évolué, mais les pratiques, pas tant que ça. Il y a encore pas mal de boulot quête à faire. Et justement, ce qui est intéressant... Là encore, tu sais, le copywriting est pas la solution à ce problème, mais il y a un bout de solution avec le copywriting et il faut trouver plein de bouts de solutions pour s'adapter au marché, tu sais. Et pareil, dans les processus, que la première rencontre, tu sais, se passe par un gestionnaire qui va plus parler de l'entreprise, fit de personnalité, avant de se focus sur les compétences du candidat, parce qu'on a un stade où avec la concurrence, bah finalement, il faut vendre l'entreprise et le poste avant même de faire peut-être un test technique ou de vérifier les compétences des personnes. Au même titre que le copywriting, c'est un bout de solution et peut-être c'est ça, pour justement aider le marché à évoluer dans le bon sens. Pour reprendre, parce qu'on a, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'idées, mais pour reprendre, donc, on a eu ce problème qu'on l'a agité. On a proposé, donc, cette solution, comme t'en parlais, donc, le poste. Ensuite, on l'a fait visualiser avec les résultats, tu sais, donc, une journée type, là où le storytelling prend tout son sens. Jusqu'à là, je suis correct?
Oui, oui.
Super. Et donc, après, les dernières étapes, ça serait lesquelles?
La dernière étape, c'est l'action. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'engager le candidat à postuler, hein, à envoyer son CV. Donc là, faut mettre un call to action qu'on peut mettre d'ailleurs à plusieurs reprises, hein. Alors l'offre d'emploi, elle est quand même, c'est pas une page de vente, hein, c'est quand même quelque chose qui doit être beaucoup plus court. Je pense qu'on peut imaginer un call to action donc au niveau de en bas, hein, donc dans la partie action et même un peu plus haut. Le call to action, je pense qu'il doit être assez assez court, assez assez dynamique. Mais alors quand je dis ça, je sous-entends que vraiment pour moi le red flag, c'est de pas écrire. N'hésitez pas à postuler. Non.
Postule.
Non, mais si tu dis n'hésitez pas à postuler, ben en fait tu lui laisses la possibilité
totalement.
D'hésiter et voilà et puis de passer à autre chose. Je dis ça parce que alors déjà en copywriting on n'écrit pas n'hésitez pas à ça voilà on le fait pas. Mais au-delà de ça, faut garder en tête que l'objectif, c'est d'être vraiment catchy. On est sur le recrutement, mais de manière générale, on s'adresse à des personnes qui sont sursollicitées. Aujourd'hui, il y a, je crois, plus de 80% des candidats qui lisent des offres d'emploi sur leur téléphone portable. Sous-entendu, ils sont dans les transports, entre un appel, les discussions WhatsApp. Enfin voilà, ils sont sursollicités. Donc, je pense qu'il dans le call to action, faut être faut être catchy, sharp et pas écrire des phrases longues, alambiquées. Pour moi, le n'hésitez pas à postuler, c'est un peu comme l'offre d'emploi où tu peux lire fort de nos 25 ans d'expérience.
Je vois exactement de quoi tu parles.
C'est vraiment des trucs qui n'ont plus leur place en 2022 quand on est dans une guerre
de l'attention. On n'a plus le temps. Et des fois aussi préciser exactement, je le rajoute parce qu'on en parlait aussi, mais de dire exactement ce qu'on attend de la personne. Si le processus demande un CV, dire qu'on a besoin d'un CV, si ça demande une lettre de motivation. Juste pour que la personne, ok, donc je me suis projeté à travers l'offre d'emploi, super. J'aimerais postuler. Maintenant, elle se projette à travers aussi le processus qui est à venir et de savoir exactement qu'elle ne soit pas étonnée que, en fait, on me demande une lettre, on me demande quoi. Toujours d'être le plus clair possible. Ouais.
Tout à fait. D'ailleurs, juste avant le call to action, il faut en parler aussi. Dans la mesure du possible, je pense que c'est assez important. Au même titre que donner une journée type, donner expliquer le process de recrutement. Qui cette personne, qui tu vas rencontrer, qui vous allez rencontrer, dans la mesure du possible aussi, donner des délais, parce que pareil, ça permet au candidat de se projeter, et aussi d'une certaine manière, je pense que ça permet à l'entreprise de s'engager sur des délais. Combien il y a de pertes de bons candidats parce qu'il y a eu des délais trop longs. Donc je pense que c'est bien aussi parce que ça permet aux candidats de se projeter, à l'entreprise de s'engager aussi d'une certaine manière. Je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire. Ça c'est hyper important. Donner les billes principales, voilà qui on va rencontrer, envoyer un CV. On va être contacté sous quel délai, etc., etc. Y a un autre élément aussi. Alors là, c'est beaucoup plus global. J'y reviens. On en a parlé au début de l'échange, mais quand on s'adresse à un candidat, à plusieurs reprises, on m'a dit, si on s'adresse à un candidat, dans l'entreprise, la culture, c'est pas forcément de tutoyer, donc ça fait un peu bizarre de tutoyer dans l'offre d'emploi et puis au téléphone de repasser au vouvoiement. Je pense que le sujet n'est pas là. Tutoyer, vouvoyer, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de s'adresser au candidat. L'objectif, évidemment, ce n'est pas de trahir la culture d'entreprise. On peut tout à fait être dans la visualisation. Tout en étant dans le vouvoiement. Rester aligné avec la culture d'entreprise, que ce soit le tutoiement ou le vouvoiement, mais vraiment s'adresser au candidat tout au long de l'offre d'emploi, pas juste au début. C'est vraiment quelque chose qui doit être... Il doit y avoir beaucoup plus de vous que de nous qui nous sommes, etc. Nous, j'entends, qui est l'entreprise, quoi.
Exactement, les principes sont les mêmes, mais en fait, le copywriting aide l'offre d'emploi s'adapte, quoi, à l'entreprise, tout simplement, que ce soit le tutoiement, le vouvoiement, ce n'est finalement qu'un détail, ça dépend de la culture de l'entreprise, mais dans tous les cas, ça s'adapte. Pour revenir, donc, on en parlait... Pour finir, c'était vraiment ce problème dont on parlait, de l'identifier, ça demande pas mal d'informations. Ensuite, donc, définir ce problème, l'agiter, présenter le poste, et ensuite, donc, faire visualiser à travers les résultats, comme on parlait, raconter une journée type, et finir par un call to action. Ça ressemble un peu à ça dans sa globalité, cette structure. Pour finir, vraiment, une question qui est très importante pour moi, mais qu'est-ce que tu en retires comme bénéfice, tout simplement d'utiliser ce type de structure et un peu le retour, que ce soit de tes clients ou des candidats?
Beaucoup plus de concret, d'aspect concret, beaucoup plus de proximité, et puis beaucoup plus de retour sur investissement, mais beaucoup plus de réponses, de résultats, en fait. Parce que combien de fois on envoie des messages sans retour, on écrit des annonces, il y a beaucoup de et ça on le voit en plus sur LinkedIn. Mmh. Il y a beaucoup d'annonces qui sont postées et il n'y a aucune candidature. Et ça, de mémoire, sur LinkedIn, on le voit. Combien de personnes ont postulé ou non. Donc, il y a aussi cet élément. Alors, l'objectif, c'est pas du tout de faire du volume. Oui et non. Après, moi, je pense pas que c'est dans la quantité qu'on trouve de la qualité. La qualité, c'est la qualité. Plus on cible, plus c'est plus c'est qualifié. Donc, plus on a un bon retour sur investissement. Le bénéfice, c'est des retours qui sont des candidatures qui sont plus ciblées, plus qualitatives. Forcément, il y a moins de volume. Il y a moins de quantité. Parce que, quand on prend un peu de recul, moins une annonce est ciblée, plus il y a des candidatures qui ne sont pas adaptées. Il n'y a pas de mauvais CV, il n'y a pas de mauvaise candidature, il y a juste un problème d'adaptation, en fait, entre l'offre et le candidat. Donc, en termes de bénéfices, c'est moins de quantité, plus de qualité et du coup, plus de réactivité, quoi, parce que on n'a pas à éplucher 70 CV pour 5-7 qui seraient à peu près OK. Et le temps de les contacter, on a déjà perdu pas mal de temps, quoi.
Totalement. Permet d'avoir beaucoup plus de pertinence. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Clara. Ça a été un plaisir.
Avec plaisir, Stan.
Merci d'avoir écouté le podcast Écrire pour recruter. Si vous voulez suivre le contenu de Clara ou approfondir le sujet de l'écriture persuasive RH, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn, Clara Lefebvre. Si vous voulez en apprendre davantage sur le copywriting en recrutement et améliorer vos approches candidats, vous pouvez aussi vous connecter à mon LinkedIn, Stan Folly. Et surtout, si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, allez suivre la page d'entreprise de Humanify. Merci encore pour votre écoute et prenez soin de vous.